Dans le deuxième cours de la semaine dernière, j'ai parlé du conte du Graal, auquel je reviendrai, et j'ai essayé de montrer que Perceval cherche son être, il le trouve en partie, mais en partie seulement en trouvant son nom, ou ses deux noms contrastés, Perceval par inspiration, et puis Perceval le malheureux, à cause de son péché, c'est son mot. Je dis aussi en partie parce que le poème est inachevé. Et aussi que Perceval cherche l'être même, l'être avec un E majuscule, et le trouve en partie, mais en partie seulement, dans les noms secrets de Dieu. Et cette semaine, je parlerai de la recherche de l'être du « je » qui écrit. Je pourrais faire toute une série de cours là-dessus, et sans doute que je reviendrai à ce sujet absolument essentiel. D'abord à propos du conte du Graal, ensuite et surtout à propos d'un poème de Villon que nous appelons, ou qu'un critique, un éditeur du XIXe siècle a appelé la ballade des menus propos. Le conte du Graal commence par quelques vers relativement bien connu, qui petit sème, petit kyo, et qui auc recueillir vio, en tel le sa semence espande, que fruit à cent doble l'irande. Car en terre que rien ne vaut, bonne semence sèche et faux. Christien sème et fait semence, d'un romance que il en commence, et si le sème en saint bon le, qu'il ne puait être sans grand preux, qui sème peu, récolte peu, et qui veut avoir belle récolte, qu'il répande sa semence en un lieu qui lui rende fruit au centuple, centuple. Car en terre qui ne vaut rien, la bonne semence se dessèche et meurt. Chrétien sème et fait semence d'un roman qu'il commence, et il le sème en si bon lieu qu'il ne peut être grand, sans grand profit. C'est étonnant à quel point on comprend l'ancien français de la fin du XIIe siècle, sauf à quelques petits moments pour lesquels on a besoin d'une traduction. Il s'agit évidemment d'une métaphore tirée de l'agriculture, où Chrétien dit en somme que le poète fait un poème comme le semeur sème un champ, ou bien on cultive la poésie comme on cultive la terre, ce qui n'est pas sans importance. Le début est tellement célèbre qu'on ne fait pas attention. Cela signifie, me semble-t-il, que pour Chrétien, d'abord, la poésie n'est pas un domaine à part, comme dans beaucoup de poétiques modernes. La poésie n'appartient pas au monde de l'art, n'est pas une expérience visionnaire. La poésie est en rapport avec le travail de l'agriculteur. Et puis, la poésie et la recherche qu'elle entreprend sont naturelles, répondent aux désirs de notre nature, ce qui est très important, n'est-ce pas, au début d'un poème où il sera constamment en question de choses surnaturelles, du Graal, de la lance qui saigne, etc., de châteaux enchantés. Perceval va apprendre des choses transcendantes, mais il apprend aussi quelle est sa famille. Perceval lui-même va vers l'au-delà, mais il reste dans l'ici, et Chrétien, en quelque sorte, imite déjà son héros. Et dès qu'il mentionne son héros, héros n'est pas exactement le mot pour un roman breton, mais vous voyez ce que je veux dire, son personnage principal, qui est le fils de la veuve d'âme, il le présente, comme vous vous en souvenez, comme allant voir hercer ses champs. Et Chrétien, en tant que poète, comme Perceval en tant que futur chevalier, dépendront de l'action d'autre chose. Voilà aussi le sens de cette métaphore, apparemment si simple. J'écris mon poème un peu comme on sème un champ. Chrétien, comme Perceval, dépendra de l'action d'autre chose. Comme le semeur dépend de la terre et du temps, Chrétien dépendra de ce que d'autres appelleraient l'inspiration, comme Perceval dépendra des aventures qu'il trouvera, ou des aventures qui lui arriveront. Et la poésie pour Chrétien est aussi une action morale. Dans le deuxième passage que je vous ai donné, les vers 41 à 48, Charité, qui de sa bonne œuvre, pas ne se vante, en soi se cœuvre, si qu'il ne la sait, ceci non, qui d'ex et charité, ah non, d'ex et charité, et qui vit en charité, selon l'esprit Saint Paul, où je le vis et lui, il m'int en deux, et d'ex en lui. La charité qui, de ses bonnes œuvres, ne se vante pas, mais qui se cache, si bien que personne ne le sait, sinon celui qui a nom, Dieu et charité. Dieu est charité, et celui qui vit en charité, comme l'écrit saint Paul, où je l'ai lu de mes yeux, demeure en Dieu et Dieu en lui. Comme Chrétien sème, le comte Philippe d'Alsace, qui était son protecteur et à qui il dédie dans les vers qui entourent ce passage, son poème, Philippe d'Alsace donne, et il donne, selon le vers 29, conformément à l'Évangile. Autrement dit, répandre des vers, beaucoup de vers, c'est semer un champ, et c'est aussi donner avec générosité. Chrétien donne une autre raison d'écrire un long poème. Écrire un long poème, c'est être généreux. Et l'ambition de sa poésie, si nous voulons le croire, est tout à fait spirituelle. On peut supposer aussi qu'étant chrétien de Troyes, il savait qu'il était un grand poète et qu'en écrivant un grand poème, il voulait qu'on le reconnaisse. Pourquoi pas ? Et dans un poème qui raconte la recherche des noms et qui nomme Perceval et d'autres longtemps après leur apparition, Blanchefleur aussi est simplement une jeune fille pendant des centaines de vers, Chrétien se nomme tout de suite. Et c'est évidemment important, il se nomme tout de suite. Dans le troisième passage que vous avez, vers 59-64, dont aura bien sauve sa poêne, Christian, ce qui entend tes poènes par le commandement. Le comte a arrimé le meilleur compte qui soit compté encore réel. Ce est les comptes doux réal. Chrétien n'aura donc pas perdu sa peine, lui qui, sur l'ordre du comte, s'applique et s'évertue à rimer le meilleur compte jamais compté en cour royale. C'est le conte du Graal. On sent l'enthousiasme, même si je puis dire, l'émerveillement de Chrétien devant le poème qu'il s'apprête à écrire et qui existe déjà un peu dans son esprit. Il voit bien qu'il a la possibilité d'écrire un très grand poème, même le meilleur conte, mais son profit est spirituel, c'est l'autre sens du mot meilleur. Le meilleur conte est aussi le conte le plus bon, le conte qui nous conduit vers le bien. Il est meilleur sur le plan esthétique, bien sûr, mais aussi sur le plan spirituel. Mais, et c'est là où je voulais en venir, il est obligé pour tout ce que je viens de dire, pour tout cela, de se risquer. Ce premier vers est en fait fascinant. Qui sème peu, récolte peu. parce que c'est un risque d'écrire un long poème. C'est un risque aussi de traduire un long poème. Maintenant que j'ai l'émerveillement en esprit, évidemment, je reviens constamment aux mots, mais je m'émerveille devant de grands poètes comme Dryden, par exemple, qui a décidé à un moment de traduire l'Énéide de Virgile et qui savait qu'il allait passer des mois, des années à le faire et que peut-être que ça ne marcherait pas, on ne pouvait pas savoir à l'avance, et qui devait savoir aussi que les gens diraient « c'est pas vraiment un poème de Dryden, c'est un poème de Virgile que Dryden a traduit ». Pope a fait exactement la même chose avec l'Iliade et ensuite avec deux autres poètes, l'Odyssée. Et heureusement, cela a marché. Et comme j'ai dit dans le cours de l'année dernière, ou il y a deux ans, les traductions de Dryden et de Pope sont parmi les meilleurs poèmes anglais. Mais il y a un risque. Et quand on se lance dans un long poème, il y a un risque. On va passer des mois, des années à le faire. Qui sait s'il n'aurait pas mieux valu faire quelques petits poèmes dont on pourrait être sûr, etc. C'est un risque. Écrire petit, c'est récolter peu. C'est ça que Chrétien dit, en somme. Écrire petit, c'est récolter peu. Vivre peu, sans risque, c'est récolter peu. C'est pour cela, me semble-t-il, qu'il compare la composition d'un long poème au don de Philippe d'Alsace. Philippe était généreux. Il ne vivait pas peu, il vivait beaucoup, et comme dit ce vers particulièrement évangélique, en le faisant, il demeurait en Dieu et Dieu en lui. Voir peu, c'est récolter peu, alors que voir grand, c'est tirer grand profit. Voir est une immense recherche. Et on sait que le premier vers cite la Bible. C'est Paul, saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, si cela vous intéresse, chapitre 9, verset 6, où Paul écrit « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Paul ne pense pas en premier lieu au semeur, à l'agriculture. Il pense à celui qui donne. Il est question de donner de l'argent, c'est très clair. Le contexte est tout à fait terre à terre. Celui qui donne beaucoup d'argent est comme celui qui sème beaucoup et qui moissonnera beaucoup. Autrement dit, Paul a déjà fait le lien entre semer et donner. Chrétien reprend ce lien, cette comparaison, cette métaphore. Et Chrétien part dans ses premiers vers. C'est ça qui est, j'allais dire merveilleux, mais je vais continuer de dire le mot, pourquoi pas. C'est ce qui est merveilleux au début. Chrétien part, il s'aventure exactement comme Perceval et Gauvin, qui s'en vont comme ça. Perceval et Gauvin ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Chrétien ne sait pas exactement ce qu'il va trouver. Il écrit un vers octosyllabe, ensuite un autre, en faisant attention à la rime, etc. Et petit à petit, en semant des petits vers, il sème un énorme poème. Mais il s'aventure, il dépend de l'avenir. Il ne sait probablement pas exactement où il va, je ne pense pas qu'il ait entièrement construit l'histoire avant de l'écrire. Il dépendra de son inventivité, de son élan, de la venue sans cesse de trouvailles. Et il se nomme en partie, je crois, à cause de son enthousiasme, à cause de l'immense possible qui s'ouvre devant lui. Il se dit « Je suis chrétien de Troyes et voilà ce que j'ai devant moi ». Et il se nomme parce que c'est en partie lui-même il cherche, non pas le vrai chrétien de Troyes, mais l'être de chrétien qu'il va découvrir en écrivant, qui va lui donner ou non son poème. Il ne le sait pas encore. Ça aurait pu foirer. Ça aurait pu être un échec. Et qui va chercher dans le poème, non pas en parlant de lui-même, parce qu'il ne parle jamais de lui-même dans le poème, après ces deux vers où il se nomme, mais en parlant d'autre chose. Et le je qui écrit est pour le poète d'abord mystérieux, car il me semble que la poésie est presque toujours la recherche pour le poète de l'être du poète, quel que soit le sujet du poème. Et on se trouve en écrivant, ou plutôt on découvre un peu plus sur soi. Devant la page blanche, on ne se connaît pas. On entre dans l'inconnaissance du poète. On se demande très souvent qui écrit. Et la réponse est certainement pas moi. On s'aventure toujours. Et Chrétien est le poète exemplaire de cette aventure. Et le je est toujours en jeu, si j'ose dire. Ce qui n'implique pas, comme je l'ai dit, que l'on s'occupe de soi-même, comme si le poème était la fontaine de Narcisse. Quand on pense aux très grands poèmes d'Homère, de Virgile par exemple, on voit que leur découverte de soi, du jeu qui écrit, est leur affaire. Ce n'est pas l'affaire de leur poème, ce n'est pas l'affaire du lecteur, c'est quelque chose qu'ils ne nous dévoilent pas. Et il me semble qu'il y a deux erreurs contraires à propos de la recherche de soi dans la composition d'un poème. Une des erreurs, c'est l'erreur de Poe lorsqu'il parle de la composition du corbeau, où on a l'impression que le moi du poète n'est pas en jeu du tout, qu'il s'agissait de se demander quel est le meilleur sujet pour un poème, quelle est la meilleure façon de traiter ce sujet, étant donné qu'il faut que ce soit à propos de l'amour et de la mélancolie, quelle est la meilleure façon de créer, de scander cette mélancolie, un refrain, étant donné qu'il faut un refrain, quel mot pourrait-on utiliser ? Évidemment le mot « nevermore », étant donné qu'il faut que quelqu'un dise constamment « nevermore » sans être un fou, il faudrait donc que ce ne soit pas un homme ou une femme, mais un être irrationnel, donc pourquoi pas un corbeau, etc., etc., donne l'impression que le poème est là avant même qu'il l'écrive et que l'écriture du poème, c'est une sorte de travail mécanique et finalement un peu ennuyeux. Et l'erreur contraire, c'est de vouloir faire parler son cœur. Le cœur ne parle pas, le cœur se contente de battre, et un poème n'est ni un artifice mécanique, ni un épanchement spontané du cœur. On ne peut jamais s'épancher en paroles nombreuses. Le poème est toujours une recherche, et c'est la finition, la dernière mise en œuvre de tout ce que l'on a découvert, qui donne l'impression que tout était décidé à l'avance. Le poète cherche, il écrit des phrases, il les met ensemble, il les change, il les barre, etc. Il écoute en quelque sorte son inconscient, il écrit des choses qu'il n'avait pas l'intention d'écrire, mais qui viennent comme ça, parce qu'il y a des images qui entraînent d'autres images, des cadences qui entraînent d'autres cadences, mais à la fin, il faut qu'il soit entièrement rationnel, il faut qu'il contrôle tout, que chaque syllabe fonctionne, et c'est le travail de la fin, où tout est en principe parfait, qui donne au lecteur l'impression que dès le départ, le poète écrivait comme cela, alors que c'est vraiment pas le cas. Et pour le poète, dans l'acte poétique, il s'agit non pas de « je pense, donc je suis, mais de j'écris, donc je ne suis pas encore. D'où la complexité dans les grands poèmes du rapport entre celui qui écrit et qui dit peut-être « je » et le poète lui-même. Celui qui écrit est le poète, et en particulier on le remarque dans les sonnets français, italiens et anglais, où très souvent il y a quelqu'un qui dit « je » et où on est tenté de penser que ce « je » est tout simplement, et sans rien dire d'autre, Pétrarque ou Ronsard ou Shakespeare. Villon était évidemment conscient à sa manière de tout cela. Et nous avons de lui, comme vous le savez, un poème où il parle précisément de l'inconnaissance du jeu. C'est la balade du menu propos que je vais vous lire. En français moderne. Je connais bien mouches en lait, je connais à la robe l'homme, je connais le beau temps du lait, je connais au pommier la pomme, je connais l'arbre à voir la gomme, je connais quand tout est de même, je connais qui besogne ou chôme, je connais tout, fort comme moi-même, je connais pourpoint au collet, je connais le moine à la gonne, je connais le maître au valet, je connais au voile la nonne, je connais quand pipeur jargonne, je connais fou nourri de crème, je connais le vin à la tonne, je connais tout, fort que moi-même, je connais cheval et mulet, je connais leur charge et leur somme, je connais Béatrice et Belay, je connais G qui nombre et somme, je connais vision et somme, je connais la faute des bohèmes, je connais le pouvoir de Rome, je connais tout, fort que moi-même. Prince, je connais tout, en somme, je connais couleurs et blêmes, je connais mort qui tout consomme. Je connais tout fort que moi-même. Le texte et la traduction que je vous ai donnée sont ceux de Jean Dufournet dans publié aux éditions Garnier Flammarion. Le poème est connu dans la mesure où les poèmes sont connus. Et il mérite de l'être, non seulement pour la frappe saisissante du refrain, qui dit de façon mémorable une vérité que nous reconnaissons tous, mais encore pour la manière dont il sonde le verbe « connaître ». Alors, on sait que « connaît » dans le verbe a plusieurs sens. Au premier vers, je sais identifier une mouche dans du lait. Au deuxième vers, je sens reconnaître un homme en particulier par ses vêtements. Au vers 3, je sais distinguer le beau temps du merveille, du mauvais. Ça, c'était un lapsus vraiment curieux. Et connaître a toujours l'un ou l'autre de ses sens, le travail de l'intelligence étant parfois un peu plus délicat. Au vers 9, par exemple, je sais reconnaître la qualité du pourpoint par le collet, ou au vers 6, je vois quand toutes choses sont semblables, c'est moins difficile. Mais pourquoi Villon passe-t-il en revue diverses acceptions du mot? D'abord, me semble-t-il, pour que l'on se rende compte qu'il ne s'agit jamais de connaître quoi que ce soit. Il distingue, il reconnaît, il identifie, mais il ne connaît pas. Au vers 17, par exemple, il ne dit pas qu'il connaît le cheval et le mulet. Il dit simplement qu'il sait les distinguer. C'est le sens du vers. Au vers 19, encore plus important, il ne connaît pas Béatrice et Isabelle, il sait laquelle et laquelle. Encore une fois, c'est le sens du vers, ce n'est pas moi qui invente. Et c'est aussi pour que le sens du mot change dans le refrain, prenne toute sa force. « Je ne me connais pas » signifie « je ne sais pas qui je suis, ce que je suis, je ne connais pas mon être ». Là, seulement, le verbe « connaître » signifie « connaître » dans le sens le plus plein et le plus moderne du verbe. Faisons attention aussi à un autre mot, « fort que ». Je connais tout, fort que moi-même, qui signifie évidemment « sauf, excepté », mais pour lequel le mot « hormis » donne le sens par l'étymologie. « Fort » vient du latin « foris », qui signifie « en dehors ». Autrement dit, je connais tout, sauf moi-même, et surtout, je connais tout ce qui est en dehors de moi-même. Mais ici, dans ce que j'appelle « moi », il y a une sorte de blanc, d'absence, de vide. Et quand on y pense, tant d'éléments du monde passent devant nos yeux. Les moines, les nonnes, les trompeurs, les fous, le maître et le valet, les femmes, les chevaux et les mulets, les pommiers, les mouches, le temps qu'il fait, les vêtements, les jetons pour calculer, le vin, le lait, le fromage, la veille, le sommeil, l'hérésie, l'orthodoxie. Et tout cela, évidemment, pour une raison. Notons en passant qu'il s'agit en général, avant les dernières choses que j'ai mentionnées, du monde de tous les jours, des choses que l'on voyait dans les rues de Paris. Et à la fin du poème, la mort consomme tout cela, comme elle consomme le poème, pour que tout ce qui reste soit moi-même. Et ce monde si fourmillant est creux. Rien n'est présent par son être. Dès le premier vers, la mouche et le lait signifient simplement le noir et le blanc. Le signe le plus élémentaire de la capacité de quelqu'un de distinguer. Je sais distinguer le noir du blanc. C'est ça la signification du premier vers. Et Béatrice et Isabelle sont des noms. Est-ce parce que Villon ne pourra connaître le monde, mais connaître dans le sens plein du mot, en dehors de lui, que s'il se connaît lui-même? Il n'a du monde qu'une connaissance logique, distinction, identité, puisqu'il ne possède pas la connaissance de lui-même. Comment on peut avoir une connaissance mécanique du monde si on ne se connaît pas, ou du moins si on ne prend pas en considération qui on est? On le remarque chez un certain type, je souligne en rouge et plusieurs fois un certain type de scientifique. On le remarque aussi chez beaucoup de littéraires. Faute de se connaître, ou du moins, est-ce qu'on peut se connaître, du moins de réfléchir sur l'être humain, sur le fait d'être humain, on peut faire de la littérature un objet d'histoire ou de théorie ou d'une étude purement formelle. Évidemment, l'histoire, la théorie et l'étude formelle sont de la plus haute importance pour l'étude de la littérature. Mais sans autre chose, elles peuvent devenir mécaniques. En littérature, le savoir doit devenir connaissance. Connaissance existentielle et ontologique. Deuxièmement, Villon met en œuvre diverses acceptions du mot connaître pour montrer que le refrain aussi s'approfondit. Le poème est fondé sur la répétition, évidemment, et Villon a eu l'idée, simple mais efficace et peut-être même géniale, de prendre une forme où la répétition existe déjà, la ballade, où le refrain revient à la fin de chaque strophe et à la fin de l'envoi, comme dernier vers, et de soumettre tous les vers à la répétition par cette anaphore, comme on dit dans le beau monde, qu'est « je connais », tous les vers commençant par « je connais ». Mais les « je connais » ne s'accumulent pas simplement. Chaque nouveau vers est un nouveau tour d'écrou, malgré le ton apparemment décontracté. Plus il connaît, moins il connaît. Et moi-même devient de plus en plus mystérieux. Le poème, me semble-t-il, devient de plus en plus angoissé. C'est comme si Villon disait, en fait, il dit « Je connais ceci et cela, et c'est autre chose, mais je continue de ne pas me connaître moi-même. » Et les anaphores contraignent toujours davantage le poète. Et le refrain devient peu à peu plus sérieux. Ne pas se connaître n'a peut-être pas énormément d'importance au début. Je connais ça, ceci, je connais cela, ben, je ne me connais pas moi-même. Enfin. Alors qu'à la fin, c'est une question de vie ou de mort. Le refrain s'impose progressivement, change de ton. Décontracté au début, il est infiniment sérieux à la fin, un peu comme celui de la ballade des pendus, le poème qui commence « Frères humains qui après nous vivaient ». Ce n'est pas exactement la même chose parce qu'il n'y a pas de décontraction au début, mais à la fin de la première strophe, le refrain « Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre » signifie évidemment « Priez Dieu qu'il nous absoude, nous, qu'il nous absolve, nous, les pendus ». Alors qu'à la fin du poème, cela signifie évidemment « Priez Dieu pour qu'il nous absolve tous les hommes ». Et les diverses acceptions du mot « connaître » sont là, troisièmement, je le propose, pour montrer la relative insignifiance des connaissances. C'est ce qui est pour moi la perspective Villon sur la poésie. Plus le sujet est sérieux, plus il se moque de lui-même. Il y a une grande leçon de poésie dans cette façon qu'a Villon de vouloir toujours, si je l'ai bien compris, descendre au fond de son propos, comprendre ce qui importe vraiment dans la vie, pour lui personnellement et pour tous les hommes, mais en même temps de ne pas vouloir le faire sur un ton solennel, de vouloir toujours, non pas simplement se protéger par l'ironie, bien qu'il le fasse aussi, mais d'écrire une sorte de poème où le sérieux passe par la plaisanterie, la blague, des jeux de mots obscènes, etc. C'est la perspective Villon où il se moque constamment de lui-même en parlant de choses sérieuses. Et il refuse d'écrire dans ce poème en particulier le genre de poème qu'on peut très bien imaginer. Victor Hugo, par exemple, je ne dis pas pour me moquer de Hugo, mais simplement en pensant au genre de poème que, de temps en temps, Hugo écrivait, Villon n'écrit pas un poème disant « Je connais le mouvement des étoiles », par exemple, l'œuvre de Cicéron, le cœur humain, les injustices de la loi, mais je ne me connais pas moi-même. Ce serait très... Vous souriez évidemment parce que je parle un peu sur ce ton-là, mais on peut très bien imaginer un poème tout à fait sérieux et tout à fait prenant, saisissant sur le fait de ne pas se connaître, qui serait, sans être solennel, tout à fait grave tout à fait grave. Mais Villon n'écrit pas ce genre de poème. Il ne parle pas du mouvement des étoiles et de l'œuvre de Cicéron. S'il avait parlé de l'œuvre de Cicéron, il en aurait parlé un peu comme il parle de l'œuvre de Végès et d'Aristote dans le lait, pour s'en moquer. Il écrit une autre sorte de poème. Mais, en même temps, les allusions deviennent de plus en plus graves. Au début, au premier vers, il y a la distinction basique, comme on dit en français moderne. Je ne vois pas pourquoi on a besoin du sens anglais de « basic ». La distinction basique entre le noir et le blanc, tout à fait superficielle et ordinaire. Quand on arrive au vers 20, on voit que le jeton dont on se sert pour calculer, peut rappeler le lait de Villon, où au huitième vers, il dit qu'il faut soumettre tout ce que l'on est et tout ce que l'on fait à la raison, à la réflexion, ou autrement, où on se méconte. Ou autrement, on se mécompte. Autrement, on calcule mal, ou on s'expose à des mécomptes. Et dans le lait, ce vers est tellement saisissant pour Villon, il est tellement pris par ce qu'il vient de dire, qu'il s'arrête. Et la première strophe du lait ne s'arrête pas. Et il n'y a pas la syntaxe ne se termine pas. Il y a simplement des points de suspension. Et ensuite, il reprend. Autrement dit, le jeton du vers 20 peut très bien penser à la façon dont quelqu'un calcule à propos de sa vie et calcule peut-être mal et va peut-être perdre. Au vers 21, je connais vision et somme. Si vision et somme signifient rêve prophétique et sommeil, il dit en somme, je sais distinguer la vérité prophétique du sommeil de l'intelligence. On est déjà dans un monde un peu plus sérieux. Je sais distinguer la vérité prophétique du sommeil de l'intelligence. Si vision signifie simplement veille, il dit, je sais distinguer les deux vies que nous menons, la vie diurne et la vie nocturne, la vie éveillée, et la vie du rêve, finalement, de la fantaisie. Ensuite, on continue, les vers 22-23. La faute des bohèmes, c'est l'hérésie des bohémiens, l'hérésie du proto-protestant, Jan Hus. Et Rome, c'est évidemment l'orthodoxie qui a réagi contre l'hérésie de Jan Hus d'une façon assez définitive en le faisant brûler. Autrement dit, dans les vers 22-23, est soulevé le problème de la vérité qui était pour Villon la plus profonde et la plus importante, et soulever la possibilité que l'on se trompe, que Jan Hus ait raison, ou l'Église romaine, d'ailleurs. On est entre deux interprétations de la vérité la plus importante pour Villon, la vérité à propos de Dieu, à propos de la vie et de la mort, à propos du salut, etc. Et on voit tout de suite qu'on est dans un autre monde que celui des mouches et du lait. Et lorsqu'il dit, après cela, d'ailleurs tout de suite après cela, « Je connais tout fort que moi-même », on voit que le vers prend un sens beaucoup plus grave devant les vérités fondamentales. Je ne connais même pas moi-même, je ne me connais pas par rapport à ces vérités-là. Ensuite, on arrive dans l'envoi, et le vers 26 signifie « en surface ». Je connais couloré et blême. En surface, je sais distinguer les gens au visage sanguin des gens pâles, ce qui n'est pas de la plus haute importance. Mais on voit qu'en dessous, cela signifie « je reconnais les vivants et les morts ». Et il montre que c'est le sens caché du vers dans le vers suivant. « Je connais mort » qui tout consomme, qui ne signifie pas, encore une fois, je connais la mort, mais je reconnais la mort avec un grand M, derrière la mort des gens. Et au vers 28, le dernier, moi-même devient extrêmement grave à cause de cette série de phénomènes qui deviennent de plus en plus importants. Moi-même, comme le dernier de la série, devient le plus important. L'essentiel, c'est de se connaître. Et Villon, à la fin, et qu'est-ce que le poème est bien écrit, entre parenthèses, on voit tout de suite, j'y pense, un essai d'Edgar Poe sur « Je connais bien mouches en l'air », enfin ce poème-là, si Paul l'avait écrit, il aurait dit « Je voulais écrire un poème où au début ce serait tout à fait décontracté et puis progressivement le ton deviendrait de plus en plus grave, je voulais parler de choses inessentielles au début et à la fin de choses très essentielles, alors j'ai décidé que les choses essentielles ce serait d'abord l'hérésie et l'orthodoxie, ensuite les vivants et les morts, et ensuite la mort ». Ensuite, il fallait que je trouve un refrain, et j'ai décidé d'avoir ce refrain-là, etc., etc. Je ne pense pas que Villon ait, dès le début, décidé exactement cette forme-là, mais au moins dans la dernière révision du poème, qu'est-ce qu'il a bien fait ? Il a écrit un poème qui devient progressivement, sans que le lecteur s'en rende compte, de plus en plus grave, de plus en plus important, ça devient un grand poème. Au début, on peut penser qu'on est devant un poème assez léger, agréable, mais sans plus. Alors qu'à la fin, on voit qu'on est vraiment devant le poème de l'être et de l'inconnaissance de l'être. Et Villon, à la fin, rapproche les deux choses qu'il faut connaître, dans le sens le plus profond du mot « connaître », le sens transitif. Celui qui parle de mon rapport avec ce que je connais et du rapport de ce que je connais avec moi-même, ces deux choses étant la mort et moi. Et quand on arrive à la fin et qu'on relit le poème, on voit, dernier trait de génie de Villon, que le premier vers aussi parle de la mort, parce que les mouches dans du lait ne vont sans doute pas survivre. Qu'est-ce que c'est bien fait, hein, c'est un poème autant sur le connaître que sur moi-même. Et même la formule banale, se connaître, je me connais, met en évidence une division intérieure. Pour me connaître, je suis obligé de devenir à la fois je et me, moi. L'être n'est pas donné. Et même en disant « je suis » sans « me », « je suis » Descartes s'observe penser. C'est d'ailleurs le but de tout ce passage, dans les méditations et dans le discours. Et Villon manifeste cette division intérieure dans le poème même. Le refrain sépare, autant qu'il est possible de le faire dans un seul vers, je et moi-même. Je connais tout fort que moi-même. Et le poème entier commence par je et se termine par moi-même. Et quelle connaissance de soi cherche-t-il ? Ce n'est pas la connaissance de soi romantique, freudienne. Il ne demande pas quelle est ma profondeur, quel est mon moi véritable, quelles sont les forces inconscientes qui me travaillent. Il cherche, me semble-t-il, son être, ce qu'il est. Voilà une des beautés de la poésie médiévale et classique aussi. Le romantisme a beaucoup apporté, immensément, et je me sens très près des romantiques anglais, surtout de Wordsworth. Mais il est vrai aussi qu'en compliquant la vie intérieure, en voyant beaucoup plus dans l'être humain que des écrivains comme Dryden et Pope, pour parler de l'Angleterre, ils ont détourné l'attention des choses les plus simples et les plus profondes, c'est-à-dire de l'être. Villon cherche son être, il cherche ce qu'il est, lorsqu'il est précisément au bord du non-être, de la mort qui arrive à la fin du poème comme à la fin de la vie. Et il cherche le rapport essentiel entre lui et autre chose, et ce rapport essentiel est entre lui et la mort. Toute la poésie de Villon résonne, me semble-t-il, dans cet envoi, la recherche infatigable dans le lait, dans le testament, dans la balade des pendus, de la faute et de l'espoir. Et ce qu'il découvre ici, c'est la division de l'être, la nécessité de rechercher l'être à la lumière de la mort, et il découvre aussi ce qui compte devant le fait que nous mourons. Et il découvre tout par sa façon de parler de lui-même. C'est le poème qui lui permet de se découvrir. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais pour moi, il est très important que dans un poème, ce qui se fait, c'est le poème. Et si c'est un poème sur la recherche de soi, c'est la façon dont le poème se fait qui est la façon dont le poète recherche son être. Ce n'est pas simplement dans les mots, dans les idées que l'on peut sortir du poème, c'est la façon dont le poème se fait. On le voit, par exemple, dans la ballade du concours de Blois de 1457. La ballade du concours de Blois qui commence « Je meurs de soif auprès d'une fontaine », qui est basée sur un poème de Charles d'Orléans qui servait de base pour ce concours. Et dans le poème de Charles d'Orléans, et vous savez que j'admire beaucoup Charles d'Orléans pour avoir fait un cours sur lui il y a 2 ans, les contradictions de son état dues à la fortune et à l'amour sont plus ou moins conventionnelles. C'est un bon poème, mais ce n'est pas un grand poème. Alors que dans le poème de Villon, on trouve des vers comme « bien recueilli, débouté de chacun ». Tout de suite, l'antithèse est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus villonesque. Ou « nu comme un ver, vêtu en président ». La contradiction n'est pas banale, c'est le sens aigu chez Villon de sa personne, de son corps. Et surtout le vers 3, « En mon pays, suis en terre lointaine ». Ce sont les choses qu'il dit qui scandent la façon dont dans la ballade du concours de Blois, Villon examine les contradictions de son être. Et dans la ballade des menus propos, il cherche son être par la façon dont il écrit le poème. Et il ne découvre pas son être. Le découvre-t-on jamais? Il découvre le sérieux de l'être, petit à petit, où il mime la découverte du sérieux de l'être. Il découvre ses rapports essentiels, qui sont tous à la fin. Il découvre son besoin. Est-ce une recherche spécifiquement française? Le temps passe, mais j'aimerais bien conclure quand même là-dessus. Est-ce une recherche française? Est-ce le genre de poème qu'un poète anglais, par exemple, n'aurait pas écrit? Ce serait tellement satisfaisant si je pouvais dire oui. Il est vrai qu'au début, on peut très bien se dire que Villon ne se met pas, ne s'imagine pas dans une situation empirique et détaillée, comme le ferait peut-être un poète anglais. On voit le moine, le cheval. Même Béatrice et Isabelle sont de simples noms, soulignés par l'emploi d'un nom, dans le cas de Béatrice, et d'un petit nom, Belay, dans le cas d'Isabelle. Cela semble très français, est peut-être très français. On peut se dire aussi que l'approche est très intellectuelle. Villon inspecte les différentes logiques du verbe « connaître ». C'est presque déjà un poème cartésien. Mais d'abord, dans les sonnets de Shakespeare aussi, le poète sonde certains mots à l'infini, d'où les plaintes des traducteurs français et autres des sonnets de Shakespeare. Et puis, un poème sur le moi et la mort commence par des mouches dans du lait. Et si ça avait été un poème anglais, j'aurais dit, regardez, hein, ce poème hétérogène. Alors, cela fait partie de l'autodérision de Villon. Mais cela rappelle le trivial dans la poésie anglaise. Il va écrire un poème qui sera pour lui très sérieux, grave même, sur la difficulté de se connaître et la nécessité de se connaître. Mais il commence par des mouches dans du lait. C'est très hétérogène et on dit qu'un poème anglais peut aller d'une puce à Aristote, c'est le cas d'un poème de John Donne. Ici, on va d'une mouche à la mort. Finalement, juste pour souligner la grandeur de Villon, le mot « prince » dans l'envoi prend tout d'un coup un sens. Dans les ballades, on l'offre, par le premier mot de l'envoi, on l'offre le poème au prince du Puy. Mais ici, lorsque Villon dit « prince », n'est-ce pas un cri? Ce n'est pas une salutation « prince », etc. C'est un cri « prince ». C'est le cri de quelqu'un qui a besoin d'un autre. C'est un appel adressé à l'autre, peut-être même au lecteur, au moment où il contemple la mort et où il contemple le fait qu'il ne se connaît pas. Et Villon est un très grand poète, précisément parce qu'il va toujours au fond. Et tous les petits détails, le refrain, prince, etc., qui peuvent sembler conventionnels, prennent chez lui un sens non seulement nouveau, mais extrêmement profond. Je reprendrai donc le 11 janvier, et dans le deuxième cours, je demanderai comment la poésie française nomme l'être des choses. Et j'essaierai de le montrer, de montrer vraiment des façons françaises de le faire. Encore une fois, dans un passage du conte du Graal, excusez-moi, mais je me suis vraiment émerveillé à lire ce texte, surtout la Reverdy, dont j'ai parlé la semaine dernière, brièvement, et ensuite dans un poème de La Fontaine, L'hirondelle et les petits oiseaux, le huitième poème du premier livre, L'hirondelle et les petits oiseaux, sans doute dans un passage de Racine, qui pourrait très bien être les premiers vers de Bérénice, tant commenté. Et il y aura aussi des remarques pertinentes de Boileau jusqu'à Yves Bonnefoy. Bon, je m'arrête là. Joyeux Noël, bonne année.